Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les syndicats étudiants seront reçus aujourd'hui et demain par le gouvernement. Ils vont y exprimer la colère dans les universités autour de la précarité étudiante. Et ils sont soutenus par certains présidents d'universités, vous l'entendrez. Nous irons ensuite en Allemagne, qui entre ce matin en récession technique. Et puis nous nous pencherons dans ce journal sur le cas de milliers de Syriens de retour chez eux, victimes de violences et de menaces de la part du régime de Bachar el-Assad. Ils pensent à repartir en Europe. Le gouvernement français va donc recevoir sur 2 jours les syndicats étudiants, aujourd'hui et demain. Le rendez-vous intervient après les grands rassemblements d'avant-hier contre la précarité, après les blocages de certaines universités et les violences déclenchées par l'immolation par le feu d'un étudiant lyonnais, c'était vendredi dernier. Des violences condamnées par de nombreux politiques ces dernières heures. Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, a hérité provisoirement du dossier et il attend donc ce matin les premiers syndicats étudiants. La précarité étudiante est une dure réalité, voilà ce que dit Philippe Vendrix, il est président de l'université de Tours, délégué à la vie étudiante au sein de la conférence des présidents d'université. Il faut trouver des solutions, dit-il, mais dans le calme.
Il est temps de discuter sereinement et ouvertement de ce que sont les aides accordées aux étudiants, de leur mode de fonctionnement, de leur allocation, de ce qu'est le logement étudiant, de lui garantir des qualités d'accueil. Ce que souhaite n'importe quel président d'université, c'est que les étudiants se sortent non pas meurtris de leurs années à l'université, mais plutôt prêts à aborder une nouvelle expérience de vie. Mais la violence ne permettra pas de déployer des dialogues sereins, constructifs sur tous les sujets. Donc autant éviter toute violence.
Des propos recueillis par Justine Leclerc. Et parallèlement à cette colère étudiante, il y a aussi la fatigue des directeurs d'école, en maternelle cette fois. 2 mois après le suicide d'une directrice à Pantin, en Seine-Saint-Denis, le ministère annonçait hier 2 premières mesures. Jusqu'en décembre, les directeurs auront une journée supplémentaire pour être déchargés de classe. Et d'ici là, ils seront également dispensés de répondre aux enquêtes administratives du ministère. Des mesures à court terme, voilà ce que dit Laurent Hoffmann et il le regrette. Il est au micro d'Anne-Laure Jumet. Laurent Hoffmann préside le SNE, Syndicat National des Écoles.
La prise en compte de la difficulté au niveau de la direction de l'école est une bonne chose. Bon, par contre, il ne faut pas s'y tromper. Les premières mesures qui sont prises sont là pour alléger ou simplifier. C'est des mesures alors à court terme pour, disons, faciliter le quotidien des directeurs. Nous, ce qu'on revendique depuis longtemps, ce sont des mesures à long terme qui seraient plus des mesures structurelles sur, par exemple, l'obtention de temps de décharge supplémentaire, la reconnaissance spécifique d'un métier par la création d'un statut, et puis une revalorisation salariale en lien avec les missions. Et si vous voulez, on ne peut pas se contenter de ce qui est proposé là, même si ça va dans le bon sens, ce sont des mesurettes quand même. Hein. Par exemple, une journée supplémentaire de décharge allouée à tous les directeurs d'ici les vacances de Noël, bon, c'est symbolique, c'est bien, mais c'est symbolique, c'est-à-dire que ça ne va pas changer la donne. Hein.
Dans les hôpitaux publics, le personnel attend là aussi des mesures pérennes et structurelles. Une mobilisation nationale est prévue ce jeudi, alors que le gouvernement n'a toujours pas dévoilé son nouveau plan d'action. Nous y reviendrons dans le journal de 7h sur France Culture. Qui briguera la succession de Jean-Claude Gaudin à Marseille, côté Les Républicains? La droite ne s'est toujours pas mise d'accord, car 2 prétendants ne veulent rien lâcher. Il y a l'actuel président de la métropole, Martine Vassal, et le sénateur Bruno Gilles, ancien maire du 3e secteur de la ville. Une réunion était donc organisée hier au siège du parti Les Républicains à Paris en présence de Christian Jacob. L'idée était de départager ses prétendants, mais il n'y a eu aucune fumée blanche, Stéphane Robert.
Rien n'est réglé pour Les Républicains à Marseille. Il y a toujours 2 candidats aux élections municipales de mars 2020. La réunion qui s'est tenue hier au siège du parti n'a pas permis de trouver un accord malgré presque 2h30 de discussion. Autour des 2 candidats à l'investiture, le nouveau président, Christian Jacob, avait invité le maire sortant Jean-Claude Gaudin, soutien de Martine Vassal, ainsi que l'actuel président de la région Sud, ex-région PACA, Renaud Muselier, qui lui soutient l'autre candidat, le sénateur marseillais Bruno Gilles. Chacun a exposé son point de vue. Martine Vassal a notamment mis en avant un sondage de l'Institut IFOP qui la donne assez nettement en tête des intentions de vote devant Bruno Gilles. En face, Renaud Muselier a fait valoir que, certes, Martine Vassal bénéficie d'une plus grande notoriété, mais qu'elle apparaîtra comme l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Et vu que le bilan de la municipalité sortante est contesté, suite à l'effondrement de l'immeuble de la rue d'Aubagne l'an dernier, mais aussi avec la publication, il y a quelques jours, d'un rapport de la Chambre régionale des comptes qui épingle la mauvaise gestion de la municipalité sortante. Dans ces conditions, ont expliqué Bruno Gilles et Renaud Muselier, il apparaît risqué de désigner comme candidate Martine Vassal, qui fait figure d'héritière du système Gaudin. Au bout du compte, pas d'éclat de voix au cours de cette réunion, mais chacun est resté campé sur sa position, s'en remettant à une décision de la commission d'investiture, programmée le 27 novembre prochain.
Ce sera officiel ce matin. L'Allemagne entre en récession en ce troisième trimestre. L'Office fédéral des statistiques doit communiquer les chiffres de la croissance allemande. Une récession technique qui marque surtout la fin d'une décennie dorée et une remise en question du modèle allemand, David Philippot.
Avec le refroidissement de la conjoncture internationale et les tensions commerciales, l'économie allemande paye le prix de sa dépendance aux exportations. Même si, les économistes le soulignent, les fondamentaux sont bons, le chômage à 4,8% est au plus bas depuis la réunification et l'Allemagne présente cette année, c'est la cinquième fois consécutive, un budget en excédent, pas de panique donc, les caisses sont pleines et l'annonce attendue d'un mauvais chiffre ne prend personne par surprise. Depuis un an, les commandes sont en baisse et la consommation des ménages ne parvient pas à soutenir la croissance. Comme une dépression automnale, le moral des investisseurs et des ménages est morose et c'est d'abord l'automobile, pilier lézardé dans un secteur en pleine révolution qui constitue la principale source d'inquiétude. L'équipementier Continental vient d'annoncer une perte sèche de 2 milliards d'euros en 3 mois, 5 000 emplois sont en danger et la menace de taxes douanières brandie par Donald Trump donne des sueurs froides aux constructeurs déjà distancés par l'américain Tesla et les Asiatiques dans la course à l'électrique. Et c'est d'ailleurs parce que l'automobile allemande, qui emploie 1 750 000 personnes, affronte des vents contraires que le gouvernement vient d'annoncer un grand plan d'investissement, 3 milliards d'euros en bornes de recharge et primes à l'achat. On verra si le mauvais chiffre attendu pousse les Allemands, comme le souhaite le gouvernement français, à délier davantage les cordons de la bourse.
Un témoin clé a décrit hier un Donald Trump obsédé par sa campagne de réélection au point de faire pression sur l'Ukraine. Ce témoin a été auditionné publiquement devant la Chambre des représentants outre-Atlantique, audition dans le cadre de l'enquête en vue d'une procédure de destitution du président américain. L'Égypte annonce un accord de cessez-le-feu ce matin dans la bande de Gaza. Cet accord intervient à la suite des efforts de l'Égypte, voilà ce que l'on nous dit. Et il a reçu l'aval des factions palestiniennes, incluant le djihad islamique. Ce matin, par ailleurs, l'armée israélienne a levé les mesures de protection des civils dans le sud-ouest du pays. Depuis mardi, les combats ont fait au moins 32 morts dans l'enclave palestinienne. Arrestations, tortures, menaces, embrigadement de force. Voici le calvaire des réfugiés syriens de retour chez eux, en Syrie, sous le régime de Bachar el-Assad. Ils témoignent auprès d'humanitaires et ils disent pour beaucoup vouloir repartir pour gagner l'Europe, Jérémy Lanche.
L'Association syrienne pour la dignité des citoyens a réussi à joindre près de 300 personnes. Leurs témoignages vont tous dans le même sens. Les deux tiers sont menacés ou ont un membre de leur famille menacé d'arrestation par les services de sécurité. Une même proportion dit avoir été extorquée par les autorités. Retourner dans les anciennes régions rebelles est particulièrement dangereux, selon Nader Othman, l'un des membres de l'association.
Ceux qui subissent les pires traitements sont ceux qui rentrent dans les zones où un accord de réconciliation a été passé avec le régime, comme dans la Ghouta près de Damas. En général, les autorités les laissent tranquilles une semaine et puis elles arrêtent les hommes. Ceux qui ont l'âge de faire l'armée sont immédiatement envoyés sur les zones de front les plus dangereuses. C'est comme si on les condamnait à mort.
Tous les retours ne sont pas volontaires. Cet été, Amnesty International a accusé le Liban d'avoir forcé plus de 2500 Syriens à rentrer en Syrie. D'autres ONG pointent du doigt la Turquie, qui réfute elle aussi ces accusations. Rentrer en Syrie ne serait pas seulement prématuré, selon Nader Othman, ce serait aussi ouvrir les portes à un nouvel exil pour les Syriens.
Ceux qui sont rentrés le disent, ils ont fait une erreur et ils en sont désormais certains. Ils vont quitter la Syrie et ne jamais revenir. C'est le pire scénario pour l'Europe. Encourager les Syriens à rentrer dans leur pays aujourd'hui est étant donné les circonstances. C'est le meilleur moyen de parvenir à un désastre. Le nombre de personnes qui vont chercher à gagner l'Europe sera encore plus important.
matter. They will come back a larger number.
L'association syrienne pour la dignité des citoyens demande la fin des retours forcés et la création d'un mécanisme international de suivi pour garantir la sécurité de ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays.
C'était un reportage de Jérémy Lange pour France Culture. Il y a un risque de neige et de verglas ce jeudi de la Seine-et-Loire jusqu'à l'Ardèche. Il va pleuvoir sur la partie sud du pays par ailleurs. Sous des températures toujours fraîches, 5 degrés ce matin à Strasbourg et Lyon, 7 à Lille, 8 degrés à Paris et 13 à Marseille.